Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'enfer aussi à son orchestre, c'est le titre de l'ouvrage d'Elio Sazoulé qui est l'invité de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Ambline, bonjour à tous. J'ai eu du mal à vous dire qui était mon invité et de quoi nous allions parler aujourd'hui puisque François Claus ne m'entendait pas, comme vous avez pu le constater. Elio Sazoulé présente depuis des années un concert, une soirée, j'allais presque dire un happening, nous en parlerons tout à l'heure, sur la musique dans les camps de la mort. Je suis heureux qu'il puisse être des nôtres cet après-midi pour évoquer ce sujet tellement singulier.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Catherine sur l'origine du décibel.
Eh bien, ce sera l'occasion de célébrer l'anniversaire de la naissance de l'inventeur du téléphone. Et oui, il y a bien un lien entre le décibel et Graham Bell.
Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dans son étonnant ouvrage, Elio Sazoulé consacre un chapitre intitulé « La sérénade sans visage » à ces femmes qui ont joué à cet orchestre. 51 femmes ont fait partie de cet orchestre d'Auschwitz, un orchestre apparu au printemps 1943 qui va être pendant plus d'un an et demi un refuge pour des musiciennes, pour la plupart professionnelles et venues de différents pays d'Europe. Il s'agit d'un refuge à la fois moral mais aussi matériel. Une parenthèse que nous allons chercher à définir ensemble tout à l'heure dans cet univers où la mort est omniprésente. Nous sommes le 22 avril 1943 quand un wagon, un de ces sinistres wagons bondés, arrive à Birkenau et à l'intérieur, toutes sortes de détenus, des femmes, des enfants, des hommes. C'est un Vous voyez tout à fait à quoi on a affaire, hein, une sorte de wagon à bestiaux où il y a de la paille répandue sur le plancher. La porte du wagon s'ouvre et les malheureux qui sont épuisés, exténués, sales, pour certains en larmes, descendent avec le peu qu'ils ont eu le droit d'emporter depuis leur arrestation et leur internement. Ils s'accrochent à leurs proches, évidemment. On voit des parents et des enfants qui essaient de rester ensemble. Ils savent que c'est sans doute la dernière fois que cette proximité leur sera permise. Des détenus en uniforme rayé, qui eux sont déjà squelettiques, vident les wagons de la paille souillée. Ils prennent les bagages des arrivants. Faut imaginer les SS qui sont là, Raus, Schnell, qui matraquent les déportés trop lents à descendre. Et parmi ces gens, Elsa Feldstein, elle fait partie de ces personnes déportées. Elle a un fichu sur la tête, elle porte des bottines lacées. Elle a 20 ans, Elsa. Elle est juive, elle est née en Allemagne, d'où elle a fui le nazisme avec ses parents. Elle a été arrêtée dans l'appartement familial à Waterloo, en Belgique. Son père était maroquinier. Il a également été arrêté. De même que la voisine du dessus, Dora, qui est beaucoup plus jeune même qu'Elsa, elle ne sait pas ce que sont devenus son père et ses trois frères, qui sont cachés quelque part dans la banlieue de Bruxelles. Après leur arrestation, Elsa et Dora ont été conduites à la Gestapo de Bruxelles, puis au camp de Malines, dans une caserne désaffectée, et les voilà désormais au terme du voyage à Birkenau. Jean-Jacques Feldstein, qui est donc le fils d'Elsa, dans son livre « Dans l'orchestre d'Auschwitz, le secret de ma mère », un livre qui est paru en 2010, nous dit cela. Dès qu'elle a sauté du wagon, Elsa a dû commencer à désapprendre ce qu'elle avait toujours considéré comme la seule attitude admissible, la politesse, l'élégance discrète, l'effacement de soi. D'aucuns dans sa famille appelaient cela de la soumission. Elle voit sur la rampe la façon dont sont traités les plus faibles, les moins agiles et les plus fragiles, les vieux et les malades, les enfants, tout ce qu'elle a toujours appris à respecter dans un bruit de fin du monde. Les coups tombent en grêle, les hurlements et les aboiements les propulsent en avant alors que les rangs se forment. Elsa est guidée par un SS en direction d'un groupe de femmes. Alors, ce sont toutes ces procédures d'incarcération très humiliantes. Elle est tondue, elle est tatouée sur le bras gauche d'un numéro bleu-noir à 5 chiffres qu'on connaît bien évidemment. soulignée d'un triangle pointant vers le bas. Elsa est conduite pour prendre ses vêtements, ses hardes de prisonnière, une culotte, une chemise, une robe, des chaussures qui ne sont pas à sa pointure, une écuelle et une cuillère. Elle est ensuite enfermée avec d'autres femmes dans le bloc de quarantaine où sont parqués à chaque fois les nouvelles arrivantes. C'est une bâtisse en pierre dans le camp A. Elsa dort à même les planches, avec une espèce de ce qu'on hésite même à appeler une couverture. Les rations alimentaires sont très très pauvres. Un quart de pain, 25 grammes de margarine et une soupe qui ne ressemble à rien, translucide. Le café, le thé, enfin ce qu'on appelle café ou thé, ce n'est jamais que de l'eau teintée. Et l'on comprend que dans de telles conditions, le typhus, la dysenterie fassent des ravages. Certaines femmes meurent, bien entendu. D'autres iront jusqu'à choisir le suicide. Elles se jettent sur des barbelés électrifiés. Elles vont dans la zone interdite quelques mètres avant la clôture. Et là, elles sont abattues par des gardes depuis les miradors. Elsa est toujours en quarantaine lorsque, un matin, vers 6 heures, elle croit percevoir de la musique. Au début, elle se dit que c'est sans doute une hallucination qu'elle entend. Elle croit entendre de la musique. Et il faut dire, il y a les bruits, hein, ces hurlements dans le bloc où elle est enfermée 23 heures sur 24. On peut se demander dans ces conditions si on n'est pas devenu fou, vous savez. Mais le soir, vers 7 heures, de nouveau, Elsa perçoit des notes de musique, toujours les mêmes, des notes un peu hésitantes. Il y a de l'accordéon, il y a de la flûte. Elle a l'impression qu'elle reconnaît la célèbre marche militaire de Schubert. Et le lendemain, de nouveau, vers 6 heures, elle entend cette même musique, comme si au cœur de ce qui est l'enfer, la musique existait, comme si elle était toujours là. Un matin, Elsa en a la confirmation. Une femme entre dans ce bloc de quarantaine, hein, où on détient ces nouvelles arrivantes, et elle hurle « Y a-t-il des musiciennes ?» Dans un premier temps, Elsa ne dit rien, elle se joue un petit peu de violon, mais elle n'a pas trop confiance, et puis surtout elle se demande ce que ça cache, ce genre de questions. Il y a une autre détenue, qui est une vague cousine, qui la pousse à s'engager, et finalement, Elsa va se désigner.
Un extrait de la Chaconne de Bach, au cœur de l'enfer des camps de la mort. Franck Ferrand, vous évoquez l'orchestre des femmes d'Auschwitz.
Évidemment, là, elle est dans une orchestration somptueuse, hein, cette Chaconne de Bach. Il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus rudimentaire dans ce que nous allons entendre nous-mêmes ou croire entendre dans un instant, puisque Elsa Feldstein, je vous l'ai dit, elle s'est désignée. Alors maintenant, on lui fait traverser tout le camp A et puis une sorte de no man's land qui donne accès au camp B. Elle arrive près d'un bloc en bois. Deux salles qui sont d'ailleurs encore en construction. Face à l'entrée, raconte Elios Azoulay, l'estrade du chef et les pupitres et les chaises des musiciennes. Devant, il y a un grand tableau sur un chevalet où figure la liste des morceaux au répertoire de l'orchestre. Non loin, une table sert aux copistes. Et oui, il faut transcrire, hein, bien sûr, sur du papier à musique toute l'orchestration, toutes les idées d'arrangement pour un orchestre très improvisé, vous l'imaginez bien. La deuxième pièce, puisque je vous dis qu'il y a deux pièces dans ce bloc, est un dortoir avec des lits superposés. La pièce fait également office de salle à manger avec des tables et des bancs. Bientôt, Elsa rencontre une grande femme, une polonaise, elle est forte, elle s'appelle Zofia Tchaïkovska. C'est elle, la chef d'orchestre. Elle demande à Elsa son instrument de prédilection pour lui faire passer ce qu'on hésite à appeler une audition. Et Elsa n'est pas très sûre d'elle, mais finalement, elle dit bien sûr qu'elle est violoniste et elle est engagée. Elle viendra désormais tous les matins jouer dans l'orchestre et puis elle retournera ensuite au bloc du camp A en quarantaine. Et une fois passée cette période de quarantaine, elle va pouvoir intégrer définitivement l'orchestre et elle habitera là au bloc. petit à petit, Elsa va progresser au sein de cet étrange orchestre. Elle devient second violon, elle se familiarise évidemment avec les autres membres de l'orchestre, une dizaine de femmes en tout, la plupart sont juives, ce sont souvent d'anciennes professionnelles qui se sont désignées. Elsa apprend beaucoup auprès de Hilde Grünbaum notamment, qui est une jeune violoniste d'origine allemande qui a reçu une excellente formation musicale. Et parmi les autres musiciennes, il y a deux sœurs grecques, Yvette Asael qui est à la contrebasse, et sa sœur Lily Asael, qui est une des accordéonistes du camp. Vous rappelez qu'au tout début, ce sont les notes de l'accordéon qu'avait perçu Elsa au milieu de ce qui paraissait un improbable capharnaüm. Trois femmes jouent de la flûte à bec, quatre de la guitare. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une formation d'un genre très particulier. Pas du tout orthodoxe, bien entendu. Et puis, il y a des chanteuses, bien sûr. La doyenne s'appelle Madame Kroner. Elle est la plus expérimentée. Elle jouait, elle, autrefois de la flûte traversière dans un orchestre philharmonique, figurez-vous. Sa sœur Maria est violoncelliste, elle va mourir du typhus quelques mois plus tard. Il y a aussi une pianiste et puis plus tard il y aura une percussionniste. Est-ce que je dois dire une percussionniste ou une batteuse d'ailleurs? Enfin, on en parlera tout à l'heure. Il y a des Polonaises, des Hongroises, des Ukrainiennes, des Grecques, des Françaises, des Belges, des Allemandes, une Russe, une Tchèque. L'orchestre, alors au fil du temps bien entendu, l'orchestre est une addition de nationalités, de langues, de façon de jouer aussi bien entendu. Tous les matins, tous les soirs, l'orchestre joue des marches au portail pour le départ et pour le retour des commandos. L'orchestre fait également office, est-ce qu'on ose dire ça, de jukebox? C'est-à-dire que vous avez à n'importe quel moment, parmi les gardiens, parmi les bourreaux d'Auschwitz, des gens qui peuvent faire irruption dans le bloc et qui demandent le programme, qui cochent deux ou trois pièces de musique pour les écouter avant de retourner à leur lugubre tâche. Les gardiennes du camp ont l'air quand même... Est-ce qu'on peut dire attendrie par la musique? Néanmoins, une fois le récital terminé, à chaque fois, elles repartent elles aussi à leur besogne. En août 1943, Elsa se rend au bloc de quarantaine. Elle vient d'entendre qu'un nouveau convoi est arrivé. Alors elle entre à son tour dans le bloc où les femmes sont là, s'entasser dans la puanteur, dans l'extrême misère. Elle se rend compte du privilège dont elle dispose, puisqu'elle a un lit individuel. Elle a de la soupe chaude, une couverture molletonnée. Elle a son uniforme de l'orchestre, c'est-à-dire une jupe plissée bleue, un corsage blanc et un fichu de coton blanc. Elsa donc se dirige vers une jeune femme de 16 ans, qui est blonde avec de grands yeux bleus. Elle s'appelle Hélène Wiernick. Avant d'arriver à Birkenau, elle vivait avec son frère Léon. Elle vivait donc en Belgique, à Bruxelles. Comme Elsa, elle a connu le camp de transit de Malines et le wagon plombé à destination d'Auschwitz sous une chaleur écrasante. Or, cette Hélène joue du violon depuis 5 ans. Elsa lui propose de passer une audition. Il y a ce trajet qui est toujours le même entre le bloc A et le bloc de l'orchestre. Comme la plupart des détenus, Hélène parcourt la centaine de mètres pieds nus, parce que lorsque les détenus sont placés en quarantaine, les SS ne jugent pas nécessaire de leur donner des chaussures. On sait d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre elles meurent assez vite. Et comme Elsa, quelques mois plus tôt, Hélène va donc passer une audition. Et c'est là qu'elle va jouer justement, mais alors tout à fait en solo, bien sûr, sur ce violon qu'on lui confie. Elle va jouer cette chaconne de Bach que vous avez entendue il y a quelques minutes.
Vous êtes au cœur de l'histoire jusqu'à 15h sur Europe 1 et n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission, à poser vos questions à Franck Ferrand par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou bien sur la page Facebook de l'émission. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur cet orchestre de femmes créé dans le camp de concentration d'Auschwitz, Birkenau.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Les les musiciennes toutes présentes autour d'Hélène, cette jeune femme qui est en train de passer donc une audition dans cet orchestre de Birkenau. C'est dans le livre de Jean-Jacques Feldstein qu'on trouve cette évocation. Les musiciennes toutes présentes autour d'elle l'écoutent de plus en plus intensément à mesure que le morceau progresse. Le temps d'Auschwitz est provisoirement arrêté et grâce à elle, les voici de nouveau provisoirement dans l'humain. C'est peut-être, cette phrase est essentielle, c'est peut-être ça le cœur de notre histoire si forte et si singulière d'aujourd'hui. Après la période de quarantaine, Hélène va donc être intégrée à cet orchestre, on la surnommera la Grande Hélène. Et puis arrive en septembre 43 un nouveau chef d'orchestre, Alma Rosé, qui est la nièce de Gustav Mahler. Elle a 37 ans, c'est une femme très énergique, Alma, exigeante. On peut même dire qu'elle sait se montrer dure, il lui arrive de désigner du doigt les fours crématoires et de dire « voilà ce qui nous attend si nous ne sommes pas capables de jouer correctement. Les Allemands n'ont que faire d'un orchestre médiocre. Il faut que nous soyons aussi bonnes et préparées que pour un concert à Madison Square Garden. » Avec Alma Rosé, Elsa et les autres musiciennes, Hélène, etc., vont progresser bien entendu. Elles font quand même 8 heures de musique par jour et ce sont 8 heures exigeantes. Elios Azoulay cite le troisième violon de l'orchestre, hein, qui est Violette Silberstein, je le cite. « On jouait comme des forcenés tout le temps, dit Violette. On répétait le matin, on répétait l'après-midi. On jouait des concerts pour les déportés tous les dimanches après-midi dans le No Man's Land situé entre le camp A et le camp B. Quand le docteur Mengele venait au bloc pour nous écouter, je n'arrivais pas à m'empêcher de regarder son visage. Je savais ce qu'il faisait. Je ne comprenais pas. Je regardais son visage, il était plutôt bel homme, un peu Latin lover. Je ne comprenais pas comment un type qui avait ce visage pouvait faire ce qu'il faisait. » Le nombre de convois qui arrivent à Auschwitz se fait de plus en plus important, bien entendu. En octobre 44, on est à 3 par jour. Des dizaines de milliers de personnes sont quotidiennement assassinées. Il y a désormais 45 musiciennes dans le bloc de l'orchestre. L'une des dernières arrivées, c'est une violoncelliste qui s'appelle Anita. Le répertoire comporte maintenant beaucoup de titres, évidemment. Vous imaginez ce travail qui a été accompli au fil des mois et maintenant des années. Plus de 150 titres différents. Il y a des succès du moment, bien entendu, des valses viennoises, de la musique facile, mais il y a aussi du Chopin, du Brahms, du Verdi, et Mozart, et Bizet, et Puccini, des passages de la Symphonie du Nouveau Monde, d'Antoine Dvorak, etc. C'est le grand répertoire, en quelque sorte, qui est en train de ressusciter dans ces conditions tellement improbables, avec pour les musiciennes une double ration de pain, une douche chaude quotidienne, ce qui donne quand même un contraste saisissant avec la condition des autres prisonnières. Et puis, on peut dire que depuis la mort soudaine d'Alma Rosé, Alma est morte en avril 1944. Elle est restée somme toute chef d'orchestre 7 mois seulement. On a nommé une nouvelle chef d'orchestre et il n'y a plus tout à fait cette exigence, si je puis dire. Les femmes ne jouent plus tout à fait comme auparavant, et d'autant que désormais les répétitions n'ont plus lieu que le matin, puisque l'après-midi on les a employées à tricoter, à ourler des pièces de tissu, etc. Et puis l'orchestre est devenu grand, il est peut-être un peu moins tenu, des clans se forment désormais. Et par exemple le 14 juillet 1944, les Françaises et les Belges vont interpréter la Marseillaise, et ça plaît pas du tout aux Polonaises. Certes, en juin, les musiciennes ont été autorisées à sortir du camp pour aller se baigner dans un étang. Mais Elsa et ses amis ne peuvent s'empêcher de se poser toujours la même question. Combien de temps ça va durer? Combien de temps jouirons-nous de ce traitement de faveur? Et un jour, un SS fait irruption dans le bloc de l'orchestre. Un tri est effectué. On met les juives à droite, les non-juives à gauche. Les musiciennes vont être transférées dans un autre camp. Ce jour-là, écrit Jean-Jacques Feldstein, elles doivent rendre sans exception tous les trésors amassés depuis leur entrée dans l'orchestre. Les vêtements, les chaussures confortables, les couvertures et les draps resteront sur les lits dans le bloc. Les cartons individuels où elles mettaient les couverts et les quelques accessoires et les mondes qui les séparaient des autres détenus, les peignes, les brosses à dents, les savons, tout ça restera également à sa place dans l'armoire. Le voyage va durer des jours dans un wagon à bestiaux. Les musiciennes chantent pour se remonter le moral. La musique est encore là, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut le dire? Et puis elles arrivent en pleine forêt. Elles sont en colonne par cinq et elles avancent vers une destination inconnue. Des coups de feu retentissent au loin. Elles viennent d'arriver en vérité à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen n'a rien à voir avec Auschwitz-Birkenau. Des baraquements sont en train d'être construits. Il n'y a pas la boue jaunâtre d'Auschwitz, ni les blocs et les cheminées fumantes. Les femmes de l'orchestre dorment les premières nuits sous une simple bâche avec d'autres détenus. Elles sont quand même au moins une centaine dans ces conditions. Et puis au bout de quelques jours, elles sont mises à l'abri dans l'entrepôt à chaussures, puis dans une baraque. Les musiciennes ne font plus de musique. Elles vont devoir désormais tresser des bandes de cellophane. Il y a un SS qui était à Auschwitz-Birkenau et qui va repérer un certain nombre de membres de l'orchestre qui un dimanche sont amenés aux messes des officiers. Et là, on leur demande de jouer. Et après le concert, le commandant du camp, c'est Kramer, demande des volontaires pour ramener les instruments chez lui. Elsa, Hélène, Violette font partie des volontaires. Elles arrivent dans la salle à manger de Kramer. Elles sont invitées à partager un saladier de riz au lait. Au printemps 1945, l'orchestre des femmes qui a été transféré à Bergen-Belsen n'existe plus depuis maintenant plusieurs semaines. Les musiciennes n'en restent pas moins soudées. Elles ont été séparées, disséminées dans plusieurs blocs. Et comme tous les autres déportés du camp maintenant, elles ont faim, elles ont soif. Madame Kroner, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de Madame Kroner, c'était la doyenne de l'orchestre et morte du typhus. La dysenterie également fait des ravages. Il y a 6 ou 7 femmes de l'orchestre qui vont mourir pendant cette période. Les autres finiront par retrouver la liberté. On est au printemps, bientôt à l'été 1945. Mais près de 50 ans après, Elsa n'arrivera toujours pas à rejouer du violon devant son fils. Ce violon qu'elle a utilisé à Auschwitz et puis de façon beaucoup plus sporadique à Bergen-Belsen. Elle n'a rien oublié de l'orchestre des femmes et du camp. Elle garde sur son bras gauche évidemment le numéro bleu noir à 5 chiffres souligné de ce triangle, la pointe en bas. Bonjour Elios Azoulay.
Bonjour, bonjour.
Vous évoquez donc très régulièrement le cas de ces femmes qui jouaient, de ces orchestres qui se sont créés dans les camps de la mort. Avec vous, nous allons y revenir dans un instant. C'est un sujet incroyablement riche et qui nous amène presque, on pourrait dire, aux limites de l'humanité.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Reconnecte.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Extrait de 3 pièces faciles, pourquoi tu raccordes d'Émile Gouet. Dans le camp nazi d'Auschwitz, vous évoquez Franck Ferrand, ces musiciennes déportées devenues membres d'un orchestre de femmes. Vous en parlez avec vous, compositeur, clarinettiste, écrivain Elios Azoulay, directeur musical de l'ensemble de musique incidentale. Elios Azoulay est l'auteur du livre L'Enfer aussi à son orchestre, la musique dans les camps, écrit avec Pierre-Emmanuel Dosé chez la librairie Vuibert.
Avant ce livre, il y a donc ce concert que vous donnez un peu partout. Il va y en avoir un bientôt d'ailleurs à Paris,
oui, vous me disiez. La prochaine date parisienne est le 18 mai à l'Espace Rachi. Il y a d'autres dates en province, mais à Paris, c'est le 18 mai.
Alors, nous allons bien sûr parler de ces hommes et de ces femmes qui jouaient de la musique dans les pires conditions qu'on puisse imaginer. Revenons, si vous voulez, d'un mot sur cet orchestre de femmes d'Auschwitz. Vous avez connu l'une d'elles, cette Violette Silberstein dont je parlais tout à l'heure, qui est devenue Madame Jacquet par la suite.
Absolument. C'était une femme délicieuse et qui a eu une espèce de grâce sublime qui s'appelle l'humour. Et vous savez, elle a décidé un jour où elle s'est retrouvée en train de pleurer sur le chalet puisqu'elle avait perdu tout le monde. Elle pleurait. Naturellement, elle pleurait. Et autour d'elle, on est venu la voir. On lui dit, non, écoute, tu n'as pas le droit de pleurer comme ça. Tu n'as pas le droit. Nous aussi, on a perdu des gens. Nous aussi, nous souffrons. Tu ne peux pas pleurer. Tes larmes sont trop difficiles pour nous. Et à ce moment-là, elle a décidé de devenir... C'est elle qui me l'a dit, n'est-ce pas ? Elle a décidé de devenir la... le pitre, la clown de l'orchestre. Et moi, je trouve que c'est sublime parce que, dans le fond, je trouve que c'est riche de sagesse et d'enseignement. Si on savait où naissent les clowns, on les prendrait plus au sérieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et cet humour-là, c'est
de quel désespoir naît-il parfois?
Et ben voilà. Au cœur d'Auschwitz, il y a aussi la possibilité de convoquer le rire comme ultime résistance possible.
J'ai parlé d'Alma Rosé. C'est une figure très, très ambivalente et très extraordinaire puisque elle se montre dure pour sauver ses compagnes, en fait. C'est étonnant.
Tout à fait. C'est-à-dire que, même au sein de l'orchestre, j'allais dire, elle est très controversée, son personnage.
Bien sûr.
Violette m'en parlait comme véritablement d'une femme qui lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. Mais si vous en parlez à la violoncelliste qui est encore vivante, Anita Lasker, qui vit à Londres, elle en parle avec beaucoup plus de sévérité. Je crois que naturellement, et vous l'avez très bien exprimé tout à l'heure, elle était elle-même dans l'obligation de nourrir le cauchemar qu'elle vivait et de le nourrir avec une espèce d'exigence absolue de manière à ce que la musique soit encore plus forte que la mort qui était promise évidemment à toutes ces femmes.
Alors là, c'est un cas particulier puisqu'il s'agit d'un orchestre de femmes.
Tout à fait.
C'est une exception dans l'exception, si je puis dire.
Bien sûr, dans tous les camps, il y a des orchestres. Que ce soit d'ailleurs les camps de prisonniers, les camps d'extermination,
les plus effrayants. Oui, bien sûr, parce que là, nous parlons des camps de la mort, mais il y en a partout, y compris dans les simples camps de prisonniers, comme vous dites, ou d'officiers, etc. Oui.
Tout à fait. La musique a été toujours, comment dirais-je, la présence obligatoire et le signe du triomphe pervers des nazis sur ceux qu'ils voulaient éliminer.
Et alors, expliquez-nous ça, justement, parce que c'est une notion très complexe, ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bien sûr qu'on est en Allemagne, ou en tout cas dans des camps allemands, c'est-à-dire qu'on sait le lien qu'entretient la culture germanique avec la musique, oui, bien entendu, et les nazis eux-mêmes,
bien
puisque la musique joue un rôle essentiel dans l'histoire du régime.
Tout à fait. Mais écoutez, si je peux me permettre de parler tout à fait franchement et de retourner la pierre d'un lieu commun, vous allez voir que sous la pierre, la terre est beaucoup plus fertile. On a tendance à penser, très simplement, et beaucoup de mauvais écrivains s'en font les porte-paroles, que les nazis étaient naturellement des amis des arts, et parce qu'il suffit de dire qu'on aime Wagner et qu'on aime Beethoven, etc. Bon, moi je crois qu'il y a quelque chose, et je vais être obligé d'employer des termes durs, mais on me pardonnera, je ne vois pas pourquoi je parlerai modérément de ces gens-là. Je crois qu'il y a chez tous les salopards, comme Mengele, comme Adolf Hitler, chez tous ces gens-là, voilà, oui, absolument, je crois qu'il y a naturellement quelque chose qu'ils savent, au fond d'eux-mêmes, c'est que la poésie leur est confisqué à jamais. Et que cet amour qu'ils prétendent tant « j'aime la musique », c'est tellement facile de dire « j'aime la musique ». Mais complètement, c'est même une manière finalement, comme le dit d'ailleurs mon co-auteur Pierre-Emmanuel Doza, il dit « les nazis n'aiment pas la musique, ils comptent les notes ». Et je crois qu'il a tout à fait raison dans ce qu'il exprime. Il faut arrêter d'imaginer qu'ils aiment... Parce que, attendez, combien de musiciens sublimes ils ont mis dans les fours, dans les chambres? Combien de musiciens extraordinaires, interprètes, compositeurs? Combien? Bon, écoutez, moi je veux bien qu'on dise qu'ils aiment la musique, mais pas du tout. La musique, c'est juste un emploi tout à fait pragmatique qui vient même illustrer, et j'en aurais terminé, enfin, ça pourrait
le faire
de commencer, mais qui illustrerait parfaitement cette phrase de Tolstoï qui dit « Là où on veut des esclaves, il faut avoir le plus de musique possible ». Et je crois qu'il a, enfin il a, c'est-à-dire le système nazi, Hitler, Eichmann, tous ces gens-là, ils ont compris ça mieux que personne.
Alors, ce qui rend ce sujet tellement complexe et fascinant à la fois, c'est que on voit, grâce à ce que vous venez de dire et d'expliciter dans des termes magnifiques, qu'il s'agit de l'extrême, extrême perversité. On est dans la perversion de tout, là.
Complètement.
Et en même temps, c'est une voie de sauvetage pour certains. C'est ça.
Alors c'est ça, il y a, vous savez, à la fois la musique est convoquée dans les moments où elle peut vous sauver la vie, et à la fois elle est convoquée dans les moments les plus effrayants, jusque dans la chambre à gaz, jusqu'à ce que la porte se referme. Si vous permettez, je vais vous raconter une toute petite anecdote qui illustrera mieux que n'importe quel autre ce monde renversé, comme le dit Primo Levi. Enfin, il disait le négatif du monde. Moi, je prends la formule et j'ai dit que le monde est renversé. À Treblinka, donc qui était un camp d'extermination absolument effrayant, il y a un homme qui s'appelle Aaron Libeskind, ce qui veut dire l'enfant chéri, l'enfant aimé, n'est-ce pas? Devant lui, il tombe du wagon, si je puis dire, avec sa femme et son fils de 3 ans, et devant lui, on tue son fils de 3 ans, et ensuite on tue sa femme, sous ses yeux, comme ça. Et par je ne sais quel... Je ne sais pas. Là, pour le coup, il n'y a pas de mots. C'est pas un miracle, c'est pas un hasard. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. En tout cas, il obtient la permission de garder avec lui son fils dans ses bras toute la nuit. Et toute la nuit, cet homme-là, je raconte dans le livre, chante et improvise une petite berceuse pour son fils mort. Et il était persuadé, le lendemain matin, que son fils se serait réveillé. Ce que je veux dire, c'est que les camps de concentration, ce sont les seuls endroits du monde qui aient jamais existé où vous chantez une berceuse à un enfant mort pour qu'il se réveille. C'est le seul endroit où les berceuses, elles sont faites pour réveiller. C'est en ce sens-là que Primo Levi, quand il dit que Auschwitz est un négatif du monde, et quand je dis que c'est un monde renversé, voilà, on est complètement... Et je veux dire, la passion, moi, qui m'anime et qui est, je l'espère, perceptible à la fois dans ma parole...
Oui, je le confirme, je le confirme.
Mais également dans le livre, c'est que je crois que plus je travaille sur ces musiques-là depuis bientôt 10 ans, plus à chaque fois que j'arrive à conclure quelque chose, je tombe sur une question encore plus fondamentale. Et c'est, je ne tombe que sur des questions. Oui, et ça, à mon avis, c'est génial.
Il y a quelque chose du parcours initiatique et philosophique dans cette démarche. Alors, au départ, ce n'est pas un livre que vous avez fait. Vous avez exhumé, en quelque sorte, des instants musicaux que vous jouez, en fait. Expliquez ça aux auditeurs.
Moi, vous savez, je suis compositeur. Et le hasard a fait qu'un jour, je suis tombé sur une petite berceuse qu'on m'a fait entendre, et je l'ai trouvée naturellement belle, mais curieusement gorgée, si je puis dire, n'est-ce pas? Et je me suis dit, mais où est-ce que c'est composé, ce truc-là? Enfin, qui a fait ça? Et puis on m'a dit, bah voilà, c'est une femme qui s'appelle Ilse Weber, dans le camp de Thérésine, qui était infirmière dans le camp pour les enfants.
Nous avions l'occasion d'en parler à ce même micro il y a plusieurs années.
D'accord,
oui.
Voilà, exactement. Et alors, mais extraordinaire. Et là, bon sang, cher Franck Ferrand, mais quelle densité incroyable. Et là, si je puis dire, l'espèce d'anarchisme qui est le mien, naturellement, posté sur tous les paramètres de l'existence, j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas d'hiérarchie possible en musique. Moi, ce qu'on appelle la grande musique, enfin, je ne comprenais pas la grande musique, enfin, musique classique, même, je trouve que c'est un terme vraiment vulgaire pour ce qu'il exprime d'anti-modernité. Tous les grands compositeurs sont des modernes absolus. Bon, ce que je voulais dire, c'est que je me suis rendu compte que dans ces camps-là, que ce soit le quatuor à cordes qu'on a entendu tout à l'heure, la petite berceuse d'Aaron Libeskind, ou celle d'Ilse Weber, ou toutes les autres œuvres, elles possèdent toutes la même densité. Il n'y a pas de hiérarchie possible. On ne peut pas dire j'aime pas. Ces œuvres-là, elles vous rentrent dans la peau et en fait, elles ne vous quittent plus. C'est pour ça que c'est impossible de s'arrêter.
On écoute la berceuse Bila Sobieras et Lusunia.
Bila Sobieras et Lusunia. Pozostało sama, bo jej tatuś na majdanku w Oświęcimiu mama. Była sobie raz żunia, pozostała sama. Bo jej tatuś na majdanku w Oświęcimiu mama.
Pas seulement dans les camps, on chante également, il faut le dire, Elios Azoulay.
Bien sûr, parce que naturellement, la voix est le premier instrument que vous avez en votre possession et parfois évidemment le seul. Donc la voix est très régulièrement convoquée. Et la petite berceuse polonaise qu'on vient d'entendre, qui est une petite berceuse traditionnelle, il y a peut-être des Polonais qui nous écoutent et qui ont entendu leurs parents chanter. Absolument. Mais là, elle a des paroles, évidemment, qui racontent l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Eljunia, dont le papa est à Majdanek et la maman à Auschwitz. Donc en fait, la musique est parfois détournée, mais les paroles, évidemment, confisquées pour mettre la vie.
On peut parler d'une musique clandestine au milieu de ces programmes imposés par les bourreaux nazis?
Absolument, bien sûr. Et déjà, il y avait énormément de musique clandestine parce que interdit de chanter yiddish, interdit de, voilà, la musique polonaise elle-même était bien naturellement, complètement
proscrite. Vous parlez de la Marseillaise tout à l'heure. Hein.
Mais bien sûr, mais il y a des Marseillaises qui ont été entonnées, qui étaient des actes sublimes de résistance.
D'un courage fou.
Mais bien sûr, je veux dire, là, on est au cœur soit de la clandestine, soit de la rage folle où l'expression musicale devient rien d'autre qu'une arme.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Thank you.
extrait de la sérénade pour violon et piano de Robert Daubert.
Ce Robert Daubert est mort à 23 ans. Il a composé ça dans ces conditions inouïes ?
Absolument. C'est un autre vertige, justement, de ce livre. C'est cette musique-là. Robert Daubert meurt à 23 ans du typhus à Dachau, vraisemblablement. On ne connaît pas son visage. On sait qu'il avait un père qui était musicien. On sait qu'il était violoncelliste, mais la seule chose que nous avons à notre disposition, c'est cette musique qu'on entend et qui semble si légère, si aristocratique, d'un tel envol.
Je veux dire, libre de tout.
Mais oui, complètement. Mais comment convoquer autant d'élégance au milieu de la crasse d'enfer de Térésine où il a composé cette pièce? Moi, c'est ça. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de ces questions. Voilà, impossible de répondre à un truc. L'œuvre, elle est là, elle nous parle, elle arrive avec toute cette espèce de densité incroyable et on se rend compte à quel point la légèreté est lourde à porter, n'est-ce pas?
Oui, on a presque du mal à croire que ce soit possible, hein, comme si cette œuvre avait été en gestation avant et qu'elle était née dans l'esprit de ce jeune homme avant même qu'il ne soit incarcéré, mais probablement pas.
Mais non, mais vous savez, qu'est-ce qu'on peut croire possible de tout ce qu'on sait de cette histoire-là ?
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on peut croire ?
Je pense que la musique est un je cherche le terme pour n'être pas vexant, est un biais très intéressant pour aborder cette question terrible.
Non mais non seulement vous ne me vexez pas, mais je pense que vous avez tout à fait raison. La musique a, de tous les arts, disait Napoléon, l'influence la plus grande sur l'âme. Je crois que la musique possède une force conductrice incroyable, qui fait qu'aujourd'hui, dans une certaine mesure, et ceux qui m'écoutent ne seront pas vexés de ce que je vais dire, dans une certaine mesure, la pédagogie de cette histoire-là s'épuise quelque peu. C'est-à-dire, que faire face aux chiffres vertigineux, face au mur de ces 6 millions de morts qu'on nous évoque? Alors que la musique, avec son drame si intime, convoque d'un seul coup l'âme d'un homme ou d'une femme, et que par le prisme de ce trou, par ce trou de serrure qu'est la musique, eh bien, vous rentrez en connexion finalement avec la totalité incroyable de ce qu'est l'Holocauste. Et moi, je crois mais bien sûr qu'il faut remettre, de toute façon, parce que l'art est essentiel. L'art n'est pas une option. L'art, je veux dire, c'est le parfum de tout. Voilà. Et c'est le parfum avec tout son malaise quand on écoute ces musiques.
Et ce sont toutes les musiques. Vous parliez de grandes ou petites tout à l'heure. Il y a même eu du jazz.
Bien sûr.
Faut le dire. C'est assez
absolument. Je raconte cette histoire qui est très peu connue. Enfin, déjà, par exemple, la Térésine dont on parlait tout à l'heure, il y avait un orchestre de jazz qui s'appelait les Ghetto Swingers. Le nom pourrait faire rire, mais c'est quand même effrayant. Mais je raconte cette histoire de Johnny and Jones, qui sont deux musiciens qui étaient dans le camp de Westerbork.
Oui.
Non, Westerbork, qui était là où étaient, vous savez, Anne Frank et Etty Lesoum. Et le commandant du camp avait décidé de faire une espèce de grand cabaret, n'est-ce pas? Et alors on faisait des comédies musicales, des machins. Et ces deux musiciens, donc, avaient eu une permission de 24 heures sous escorte pour aller enregistrer 6 titres. Nous possédons, mais c'est dingue, on possède 6 titres de deux musiciens de jazz. Et encore une autre question, si vous permettez, auquel c'est impossible de répondre. Moi, quand j'écoute ces musiques-là de jazz, si légères, eh ben, je tape du pied. Et à chaque fois que j'écoute ça, je me dis, Elios, est-ce que c'est bien de taper du pied? Est-ce que cette musique, voilà. Non, mais c'est vrai, impossible de savoir. Est-ce que, parce que, évidemment, ils sont morts après, les pauvres hommes.
Parce qu'il n'y a pas eu de survivant, là, en fait.
Non, pas du tout. Et n'empêche que la musique, eh bien, elle nous fait taper du pied. Eh ben, peut-être que taper du pied, c'est pas mal, et peut-être que c'est terrible. C'est impossible de savoir réellement.
Oui, c'est encore une autre question que se posait cette musicienne tout à l'heure, si je puis dire, hein, qui était dans cet orchestre à Birkenau et qui observait Mengele pendant qu'elle était en train de jouer.
Mais tout à fait.
Et il avait l'air de se laisser pénétrer par la douceur de la musique. Alors encore une fois, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il avait l'air.
Complètement, il avait l'air. Vous savez, il a même demandé ce morceau si sublime de Robert Schumann qui s'appelle La Rêverie. Vous savez,
c'est merveille absolue.
Merveille, c'est l'enfance totalement. Alors que ce type qui collectionne les jumeaux, qui torture les bébés et qui réclame ce truc-là. Non, non. Pour moi, l'amour, c'est une exigence. Je veux dire que ou alors, c'est qu'on fait ses poubelles en faisant l'amour. Et peut-être que Mengele faisait ses poubelles en parlant d'amour.
Notre amie Patricia Bouchenaud-Deschin, qui d'habitude vient nous parler ici de Le Nôtre et du Grand Siècle, me signale un autre petit livre exceptionnel, dit-elle, une opérette à Ravensbrück, mise en œuvre par Germaine Tillon au cours de l'hiver 1944-45 et publiée il y a quelques années. La Patricia nous dit que c'est ce qui lui a fait découvrir ce thème de la musique dans les camps. Le Verfügbar aux enfers a été joué au Théâtre du Châtelet en 2007 pour le centenaire de Germaine Tillon, mais aussi à Ravensbrück en 2010.
Oui, tout à fait. Dans le disque qui accompagne le livre, il y a cette petite berceuse d'Au clair de la lune que tout le monde va reconnaître. Et je vais vous chanter les paroles de Germaine Tillon. C'est Notre sexe à pile était réputé. Aujourd'hui sa pile est bien déchargée. Mon ampoule est morte, je n'ai plus de feu. Et là le chœur qui chante « Ouvrez-nous la porte pour l'amour de Dieu ». C'est incroyable. Non mais moi, c'est un abîme sur Au clair de la lune.
Je ne pense pas avoir jamais vu la régie aussi tétanisée qu'aujourd'hui, Lios Azoulay. Vous nous parlez de choses extraordinaires et vous voulez faire revivre. Alors ça, il faut parler de Jeanne d'Arc. Il faut parler de cet opéra.
Oui. Alors là, écoutez, là, je veux dire que nous avons tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui sont ici dans le studio, naturellement, la possibilité de faire revivre une Jeanne d'Arc impensable. Dans le camp de Térézine, un homme, Victor Ullmann, qui mourra assassiné parce que juif dans une chambre à gaz à Auschwitz, quelques mois avant de mourir, écrit le livret d'un opéra, La vie de Jeanne d'Arc. La vie de Jeanne d'Arc, deux actes en vers rimés qui n'avaient jamais été traduits, jamais publiés, c'est totalement inédit. Et le livret est complet, mais deux pages de musique simplement, puisque le silence au bout de la musique signifie le départ vers l'est de Victor Ullmann et donc sa mort. J'ai lancé ce qu'on appelle tout simplement un financement participatif.
Oui, c'est bien.
Voilà.
Oui.
Mais c'est génial même. c'est un truc qui s'appelle Jeanne d'Arc sauvée des cendres. Vous tapez ça, c'est un site qui se banque. Bon, enfin, Jeanne d'Arc sauvée des cendres. Écoutez, vous avez cette phrase de Guitry qui dit, en substance, hein, après une œuvre de Mozart, le silence qui suit est encore de Mozart. Eh bien, quand vous entendrez sur le disque les deux pages d'Ullmann et le silence, vous vous direz que c'est pas le silence d'Ullmann. Et mon but est de recréer l'œuvre. C'est-à-dire, et pour moi, j'aurais...
Mais comment?
Eh bien, c'est-à-dire que je vais prendre ces deux pages de musique et ce seront, si je puis dire, ces deux pages, le réservoir de ma propre création musicale. Il s'agit finalement moins d'une résurrection que d'une recréation. Et moi, je crois. Comment ne pas entendre aujourd'hui les résonances contemporaines tellement dingues d'un Jeanne d'Arc écrite par un juif dans un camp de concentration à une époque aujourd'hui où d'ailleurs Jeanne d'Arc a été très largement confisquée par une certaine partie des gens et de la politique? Comment ne pas entendre qu'aujourd'hui il y a dans cette Jeanne d'Arc finalement presque juive, on pourrait dire, même si le livret c'est pas une Jeanne d'Arc,
non,
pas une Jeanne d'Arc yiddish, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que comment ne pas voir une espèce de force de résurrection, de réconciliation incroyable. Moi, je crois qu'il y a, je crois qu'il y a un très grand truc à faire et je dois vous avouer que je trouve que la vertu de ces financements participatifs, c'est de nous mettre tous, justement, précisément, pardonnez-moi de reprendre le titre de votre émission, au cœur de l'histoire, avec la possibilité, pour le coup, de faire battre le cœur de cette histoire et enfin de devenir les commanditaires de cette résurrection. Et moi, je trouve ça incroyable. Donc, il faut m'aider.
Si on va sur un moteur de recherche et qu'on tape Jeanne d'Arc sauvée des cendres, on va vous trouver.
Hein. Ah, vous me trouverez, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Vraiment, on a déjà des gens qui nous suivent, des historiens, des écrivains, enfin, et évidemment, il faut vraiment, on a encore 30 jours ou 32 jours, si ma mémoire est bonne, et c'est vraiment une grande chose. Et je vais vous dire quelque chose, je crois véritablement, vous savez, on vit dans une époque qui est complexe politiquement. Je crois qu'en plus d'être une découverte politique, poétique, artistique et musicale de premier ordre, cette Jeanne d'Arc, je crois que c'est aussi politiquement quelque chose que nous avons à jouer pour récupérer un symbole qui nous a été confisqué.
Je peux vous poser une question qui me turlupine depuis un moment, Lios Azoulay. Où trouvez-vous cette énergie, cette joie de vivre, en quelque sorte, presque cet humour pour parler de sujets aussi désolants?
Eh bien, je vais vous dire quelque chose. C'est une très bonne question. je vais vous aller rentrer déjà dans le secret de l'écriture de ce livre. Sur les dizaines, centaines de livres de témoignages que j'ai lus, de chaque côté pour que ça tienne sur mon bureau, symboliquement, j'avais mis à gauche toute l'œuvre de Groucho Marx et droite la Bible de l'humour juif de Marc-Alain Wachnin. Je me suis dit, si mes livres, si je dois tenir, c'est grâce à l'humour. Ensuite, je crois qu'il est très important, si on veut redonner vie, il faut aussi être capable d'en injecter à l'intérieur. Je crois que tous ces pauvres femmes, ces enfants, enfin tous ces hommes, ces femmes, etc., ne sont pas morts pour rester morts. Et c'est, vous voyez, ils sont morts au contraire pour qu'on exalte leur vie, leur souffle de vie. Et c'est la raison pour laquelle moi, cette Jeanne d'Arc me tient tellement aux intestins. C'est qu'il me semble que si nous échouions là-dedans, mais je veux dire, c'est comme d'enterrer deux fois quelqu'un. Non, écoutez, ces gens-là ont été en vie. Moi, je n'ai pas envie de me présenter à eux ou pour les évoquer de la manière la plus triste et la plus convenue possible. Voilà.
Ah ben le moins qu'on puisse dire est que vous avez parfaitement réussi à ce propos. L'Enfer a aussi son orchestre, La musique dans les camps, c'est publié à la librairie Vuibert avec Pierre-Emmanuel Dosa dont on n'a pas parlé.
Oui, bah écoutez, c'est un immense traducteur, il a traduit plus de 300 livres, un immense érudit, historien, et qui commente d'une manière tout à fait libre et, si je puis dire, bon, on peut le dire génial, moi j'aime bien, parce que c'est vrai, c'est un homme qui a du génie, et de manière très poétique, les récits dont je suis l'auteur.
Et on peut vous entendre donc alors à Paris, au mois de
voilà,
mai.
Voilà, le 18 mai, le 8 mai à Rouen, le 10 mai à Quevillon, à Orléans le 26 avril, ce soir à Louviers,
ah oui.
Voilà, etc. Oui, il y a beaucoup de dates.
Ceux qui nous écoutent à Louviers dans les environs, j'espère, seront très nombreux à venir ce soir vous écouter, vous suivre, je ne sais même pas comment dire, essayer de grappiller une parcelle de cette extraordinaire énergie qui est la vôtre,
Mais
Elios Azoulay.
Vous savez, c'est véritablement moi. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous parliez de mon humour, etc. Bon, est-ce qu'on aurait fait confiance à Charlie Chaplin sur son CV quand il a fait le dictateur? Est-ce que, je veux dire, s'il fallait faire confiance qu'à ceux qui se trimballent leur tristesse comme signe de profondeur, on n'aurait pas eu des Chaplin. Et Chaplin, il a été justement ce génie absolu capable de renverser le rire sur ceux qui voulaient lui couper la gorge.
Merci beaucoup, Elios Azoulay.
Merci à vous.
Je cite l'ouvrage de Jean-Jacques Feldstein, Dans l'orchestre d'Auschwitz, aussi, le secret de ma mère, aux éditions Imago en 2010. Merci.
Au cœur de l'histoire continue sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous répondrait à la question de Catherine sur les origines du décibel.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Catherine qui vous interpelle cet après-midi, Franck Ferrand, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Catherine vous dit, pour mesurer si un son est fort ou non, on mesure souvent en décibels. Cela vient-il d'un monsieur décibel?
Et non, il n'y a pas de monsieur décibel. Je le dis tout de suite à Catherine, je vous explique. Le décibel donc mesure l'intensité du son, hein. C'est l'unité la plus utilisée en tout cas. Un décibel vaut un dixième de bel. Alors les ingénieurs qui ont créé cette échelle ont créé une fonction logarithmique. C'est intéressant de le comprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas une échelle linéaire comme pour les longueurs, les masses ou les températures. C'est une échelle logarithmique qui augmente à mesure qu'on progresse. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais cette échelle de bel, elle a été créée par des ingénieurs des laboratoires Bell en 1923. Ils ont appelé la mesure du son, le bel, par évidemment, alors ça s'écrit que B-E-L, mais c'est par en hommage au célèbre Alexander Graham Bell, B-E-2-L, qui est le fondateur de leur laboratoire et qui était né, entre parenthèses, le 3 mars 1847, c'est-à-dire il y a 169 ans aujourd'hui. J'en parlais ce matin chez Maxime Switek. Il est mort en 1922, ce physicien, qui est considéré par ailleurs comme l'inventeur du téléphone. Alors, il est écossais, les Américains, les Italiens lui dispute la paternité de cette invention, mais enfin ça c'est, comme on dit le matin, une autre histoire.